With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. On vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie, du matériel, des jeux qui sortent en ce moment. Et aujourd'hui, on a un programme bien chargé avec les specs de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. On va pouvoir se mettre sur la figure dans la plus pure tradition de la guerre des consoles. Non, je plaisante, on est des gens bien ici. On va aussi vous parler de Half-Life Alyx, le jeu VR sorti il y a quelques jours. On va aussi peut-être reparler un petit peu de Doom Eternal et Animal Crossing, maintenant qu'on a eu un peu plus de temps pour les essayer et passer du bon temps avec ces jeux-là, et d'autres petites news également. Mais avant tout ça, il faut évidemment que je présente mes co-animateurs. Moi, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir, et je suis également très heureux de recevoir Escarina, alias Maïté, alias Esca. Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Vous, c'est pas moi que tu vous vois, j'imagine. Donc,
non, c'est toi et mais c'est vrai que du coup, j'anticipe un petit peu. Mais oui, ça va très bien. En ces temps de confinement que je vis plutôt bien. Donc je suis chez moi en pleine forme. Ouais. Tout va très bien.
En catégorie démographique, les gamers sont peut-être ceux qui sont un petit peu moins malheureux que les autres.
Exactement.
Dans ces conditions particulières, on a donc, tu disais vous, c'est parce qu'on n'est pas seuls tous les deux, on a aussi Kassim qui se joint à nous. Comment ça va, Kassim ?
Ça va très bien, oui, quand on est gamer comme nous, pas de souci pour le confinement. Quand je ne télétravaille pas, je passe mon temps sur mon île déserte de Animal Crossing ou dans Half-Life Alyx.
C'est très bien. Et effectivement, Kassim Ketfi, qui officie notamment chez Frandroid et qui est un spécialiste amateur éclairé de Microsoft. On peut dire ça comme ça ?
C'est ça, mais après, pas de souci pour parler aussi de la PlayStation 5. Je ne suis pas là pour faire la guerre. Je ne participerai pas à la guerre des consoles.
Je sais
que tu m'avais invité pour ça.
Mais oui, j'espérais que justement, tu allais défendre mort.
Créer le clash un peu.
Pas de clash dans cette émission, malheureusement. Mais il n'empêche qu'on va quand même parler de tout ça parce qu'on a tous les détails et ils sont intéressants à examiner. Mais avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement avec des vrais sous sur Patreon, et notamment The Pomme, Rouden, Romain, Olivier Bouvet, Gabriel, Bien-Aimé Bismuth, Vince Charon, Davizar Lancelot, Léa Moireau, Alex et Pierre Le Thor. C'est Léa Méro. Oh là là, j'ai mal lu. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, puisqu'évidemment, elle existe grâce à ceux qui payent. C'est un petit peu comme les magazines à l'époque, mais on en reparlera. Vous savez, ces trucs en papier là, qu'on allait acheter dans des magasins, on marchait avec nos pieds et tout. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ce qui est important là, c'est de décrire la Xbox Series X et la PS5. Et alors, pour ceux qui se plaignent que je parle trop, malheureusement, je vais faire la présentation des specs, donc ça risque d'être un petit peu de Patrick qui fait son cirque. C'est vrai que j'aime bien m'entendre parler, j'avoue, mais aussi, parfois, je fais des présentations aussi simples et complètes que possible, et j'aime bien les faire moi-même. Donc, si ça vous va, je vais faire les explications de ce qui a été présenté, on va le faire à la louche, et après, on en discutera. Ça vous convient ?
Très
l'approbation.
Bien.
C'est parfait, bien sûr.
Merci, voilà.
Alors, il faut savoir qu'on est obligé de le dire, mais...
Ils ont été bien briefés avant le début de l'enregistrement. Très bien. Alors, ça a commencé avec Microsoft qui a présenté les détails techniques de sa console à venir, la Xbox Series X, avec une présentation assez complète. Je vais vous donner les détails techniques pour ceux qui les veulent. On ne va pas détailler non plus complètement dans nos discussions, mais au moins là, vous aurez quelques chiffres. En gros, c'est un processeur AMD avec un Core Zen 2. Le processeur à 8 cores, pardon, alors je vais recommencer, processeur 8 cores à 3,8 GHz, c'est pas mal, processeur donc de type Zen 2 et un coprocesseur graphique à 1,8 GHz en architecture RDNA 2. Il a 16 Go de RAM qui sont divisés entre une RAM un peu moins rapide et une RAM un peu plus rapide et un disque SSD de 1 Tera qui est évidemment, comme tous les SSD, extrêmement véloce et il a toute une architecture qui est prévue pour tirer les avantages de cette rapidité du SSD en plus de la rapidité des autres éléments qui composent la console. Le truc à retenir, enfin, disons que le truc que les gens retiennent, c'est la quantité de teraflops. Il y en a 12 sur la Xbox Series X. Qu'est-ce que c'est que les teraflops ? Les teraflops, en gros, c'est la vitesse de calcul possible du système et plus particulièrement de la partie graphique du système. Donc, si on schématise un petit peu, ça veut généralement dire que plus on a de puissance de calcul, plus les graphismes seront beaux, réalistes et tout ce qu'on veut. Donc, on a 12 teraflops sur la console de Microsoft. Du côté de la PlayStation 5, on a eu une présentation de Mark Cerny, l'architecte de Sony, le designer de l'architecture matérielle de Sony, une présentation qui était prévue pour la GDC, la conférence des développeurs, qui a été annulée, et qui était franchement un petit peu bizarre. Moi, ça m'a plu parce que je suis un technicien et en plus, la belle voix de Mark Cerny est quand même... elle nous berce comme ça pendant une heure, c'est presque de l'ASMR. Mais beaucoup de gens étaient déçus parce qu'en plus, Sony, on va dire, a communiqué en disant « Vous allez enfin savoir en quoi la PlayStation 5 va pouvoir nous aider à vous donner de nouvelles expériences. » Donc, ça avait l'air d'être un truc orienté grand public et dans la pratique, c'était vraiment une lecture, si on fait un anglicisme, une sorte de présentation hyper froide, pas une image de jeu de la console, pas une image de la console elle-même, c'était vraiment des chiffres avec Mark Cerny qui nous berce. Donc les gens étaient un petit peu déçus au sortir de la présentation. Je suis sûr qu'on pourra le commenter un petit peu plus dans un instant, mais pour les informations qu'on a eues, en gros, c'est un petit peu kiff-kiff avec la Xbox One X au niveau du processeur et du coprocesseur graphique. Donc, c'est également un AMD Zen 2, une architecture RDNA 2, donc les mêmes architectures. Il est un petit peu moins rapide, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais en gros, on arrive à 10 teraflops, 10,28 teraflops au lieu de 12, mais on a aussi 16 gigas de RAM, une RAM qui est à une vitesse unique, contrairement à la Xbox One, à la Xbox Series X, qui a une RAM différenciée en deux vitesses différentes. Et l'autre point qui est très différent, c'est le SSD, qui est évidemment très rapide comme un SSD, mais qui est beaucoup plus rapide que le SSD de la Xbox Series X. C'est-à-dire qu'il est à peu près deux fois plus rapide, au point où, sur la Series X, évidemment, ça diminue les temps de chargement de manière extrême, ça permet de relancer un jeu qu'on a mis en pause assez rapidement, en quelques secondes, mais ce que détaillaient les braves gens de chez Sony, c'était que le SSD de la PlayStation 5 est tellement rapide que ça permet presque de s'en servir comme de la RAM. En théorie, par exemple, si on doit... Vous savez que dans la plupart des jeux, il y a des passages où on se glisse dans une crevasse et ça ralentit tout. Et en fait, ça, c'est pour masquer les temps de chargement. Le jeu charge tout le décor de ce qu'il y aura de l'autre côté de la roche qu'on est en train de, dans laquelle on est en train de passer entre les deux parties de la roche. Là, ce qu'il disait, c'est que c'est tellement rapide qu'on peut charger la partie qui est derrière le décor pendant le temps qu'on est, enfin derrière nous dans le décor, pendant qu'on est en train de se retourner. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas besoin de tout charger en RAM, tout ce qu'on pourrait afficher dans le décor. Donc, c'est une capacité qui est intéressante. Et au-delà de ça, il a passé un bon moment, ce bon Mark Cerny, à nous parler d'audio 3D. Et des capacités incroyables de la console en audio 3D. Le seul problème, c'est que pour que ça marche de manière optimale, ils ont besoin d'adapter le signal à la forme spécifique de notre oreille. Donc, il y aura 5 profils au lancement de la console, mais ils vont continuer à développer la chose. Et Marc Cerny évoquait des trucs comme on vous demandera peut-être de nous envoyer une photo de votre oreille. C'est un peu bizarre, mais pour qu'ils puissent établir le profil de l'oreille et donc créer un son qui serait vraiment en 3D et qui serait extrêmement immersif. Microsoft a également un projet, une avancée en ce sens, qui est moins spécifique à chacun des auditeurs, on va dire, de leur jeu. Mais à voir, ça c'est le genre de choses, je pense, qu'on ne peut vraiment juger qu'une fois qu'on les aura entre les mains ou entre les oreilles.
Ouais, faut savoir que c'est un peu le nerf de la guerre chez les on va dire les revendeurs de services audio, pouvoir faire de l'audio 3D comme tu dis, personnalisé à la forme de ton oreille. Enfin, dire aux gens envoyez-nous des photos de vos oreilles pour qu'on vous personnalise le son, c'est ouais. Un beau message marketing, mais en vrai ça n'arrivera pas parce que sinon tu es obligé de faire 7 milliards de profils différents. Ouais. Et je bossais dans l'audio juste avant mon boulot actuel et c'était un petit peu c'est un des arguments marketing forts quand tu veux faire de la 3D audio. Donc voilà, c'est bien, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, tu vois.
Disons que s'ils ont effectivement ça fait des années qu'on nous promet l'audio 3D vraiment réussi. S'ils ont réussi à trouver un moyen de le réaliser, bah ça serait cool, mais ça c'est un petit peu différent, un petit peu nouveau. Vu d'ici, je suis pas convaincu que ça donnera vraiment un argument super pointu pour la qualité de l'expérience, mais bon, peut-être, à voir. Kassim, est-ce que il y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer, mais je vais quand même vous donner la parole. Est-ce que tu penses que j'ai fait un bon résumé de la chose, ou est-ce que j'ai oublié de mentionner certaines caractéristiques ?
Non, pas du tout. Non, oui, t'as fait un bon résumé. concernant la PlayStation 5, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. Sur la forme, tu l'as mentionné rapidement. C'était une conférence qui aurait dû être à la Game Developer Conference, qui a été annulée ou repoussée plutôt. Et j'ai l'impression que Sony s'est un peu planté sur sa communication en deux temps. D'abord, en annonçant la conférence ou le cours de Marc Cerny, là, ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter en fait. Mais vraiment les réseaux sociaux de PlayStation qui s'adressent normalement au grand public, à tous les joueurs, etc. Et alors le tweet mentionnait que ce serait un plongeon en profondeur dans les specs de la PlayStation 5. Donc on comprenait que ça allait être technique. Mais ils auraient dû... S'ils s'adressaient vraiment à tout leur public, c'est-à-dire en s'adressant à ce compte Twitter-là, ils auraient dû, à mon avis, faire quelque chose de beaucoup plus didactique. Et c'est pas parce que c'est la Game Developer Conference que tu dois être forcément ultra technique et perdre les gens, en fait, et perdre le grand public.
Par exemple, la présentation. Il y avait même les silhouettes des gens qui étaient un faux public qu'ils avaient mis en surimpression. Enfin, c'était un peu lunaire comme présentation.
C'est ça, c'est assez dingue qu'il n'y ait eu aucune démonstration, alors que pourtant les démonstrations, ils les ont. On sait qu'il y a eu la démonstration avec Spider-Man qui avait fuité sur Internet. Donc ils auraient pu la montrer.
C'était plus que ça, elle était dans l'article de Wired, je crois, dans l'un des deux articles qu'ils avaient fait avec Wired.
Elle était mentionnée, mais pas montrée.
D'accord.
Donc là, ils auraient pu la montrer, cette démo, donc où, grâce à la vitesse du SSD, en fait, ils montrent que Spider-Man peut aller beaucoup plus vite dans la ville de New York parce que la console est capable de gérer l'affichage de la ville en temps réel à une vitesse beaucoup plus importante. Et donc ça aurait été une démo assez intéressante à montrer. Donc sur la forme, c'est vraiment dommage, d'autant que là où ils se sont aussi un peu ratés, c'était sur le fait que on n'a jamais eu d'informations, à part les articles de Wired justement, sur la PlayStation 5. Et c'est pas comme Microsoft qui avait déjà montré le design de la console, qui a déjà donné plusieurs informations. Il serait venu avec quelque chose de très technique là à la GDC pour la Xbox, ça aurait été moins grave puisqu'on avait eu d'autres informations déjà avant étaient plus grand public. Là, en fait, PlayStation, finalement, leur communication sur la PS5, ils la commencent avec deux articles de Wired, le logo et ce cours ultra technique et sans aucune démonstration. Donc c'était un peu décevant. Et le truc qui m'a manqué, moi, c'était le fait qu'ils ne présentent pas la manette. J'étais assez surpris.
C'est une conférence pour les développeurs. La manette, je pense, ouais.
C'est un truc pour les développeurs et si vraiment la manette est aussi ambitieuse qu'elle semble l'être dans les rumeurs, c'est bizarre de ne pas l'avoir révélé parce que c'est censé faire partie intégrante de l'expérience justement avec l'audio 3D et compagnie que va proposer la PlayStation 5 en fait.
Ouais, il y a un élément, juste pour ajouter à ce que je disais, l'un des trucs qu'il a fait, Cerny, c'était défendre l'idée des générations de consoles. Il disait, il faut qu'il y ait une cassure entre différentes générations pour qu'on puisse proposer justement de nouvelles expériences. Ce qui était un argument, je pense, qui peut tout à fait se comprendre. Les deux philosophies ont leurs avantages. Le fait de faire une continuité entre les générations, qui est le choix qu'a fait Microsoft, a des avantages évidemment. Le fait de faire une cassure a des avantages également. Mais il a beaucoup insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté aussi sur le fait que, oh, vous savez, les chiffres, 10 teraflops, 12 teraflops, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, machin. Il y a tout un tas de détails dans lesquels on pourrait rentrer sur le nombre de compute unique du GPU avec la vitesse de chacun d'entre eux. Il y en a moins sur PlayStation, mais ils vont plus vite. Enfin bref, tous ces détails-là.
Oui, il y a aussi la fréquence variable sur laquelle il n'est pas trop revenu, mais qui pose aussi des questions sur la capacité de la console, parce qu'on n'a pas vu son design, à refroidir correctement les composants et tout, parce que donc il indique qu'il y aura une fréquence... qui potentiellement peut augmenter ou diminuer selon,
fréquence variable,
selon les besoins. Mmh. Voilà. Alors que Microsoft insiste sur le fait que c'est une fréquence fixe, justement parce que la console a été conçue pour tenir leur capacité, la capacité promise. Quoi. L'autre point qui est intéressant et qui avait été retenu pour la Xbox et pour la PlayStation 5, c'est la possibilité d'étendre le stockage, qui est de deux philosophies complètement différentes, et les deux sont intéressantes. Chez Microsoft, c'est un... SSD externe propriétaire développé avec Seagate, donc c'est quelque chose de plus user-friendly, mais qui risque de coûter cher et qui est propriétaire. Alors que Sony, ils promettent de pouvoir mettre toi-même un SSD dans la console, donc on imagine en soulevant le capot, en gros.
Comme c'est le cas avec les disques durs aujourd'hui, en fait.
C'est ça, de la PlayStation 4. Sauf que les SSD n'ayant pas une norme aussi précise que celle des disques durs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils vont devoir faire une liste de SSD compatibles. D'autant que la PlayStation 5, le SSD qu'ils ont annoncé, est vraiment, vraiment ultra rapide. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment marquant. Nous, on l'a noté vraiment dans tous nos articles qui parlaient de la PlayStation 5 ou de la Xbox. Les gens, même les technophiles, ne se rendent pas compte à quel point les prochaines consoles sont ambitieuses et s'annoncent vraiment performantes et à la pointe, ce qui n'était pas du tout le cas en 2013 de la PlayStation 4 et de la Xbox One au moment où elles sont sorties.
Ouais, vas-y, t'as écrit cet article très intéressant sur... en fait, bon, je vais te laisser l'expliquer parce que ça détaille bien l'importance, la puissance des nouvelles consoles qu'on va avoir. Vas-y, explique comment t'as fait, c'était très intéressant.
Simplement, j'ai fait un article en fait où effectivement j'ai pris les composants principaux des consoles, donc le fameux processeur AMD Zen 2, la puce graphique avec plein de teraflops et tout ça, et le SSD, et j'ai comparé ça avec des équivalents autant que faire se peut qui sont disponibles aujourd'hui à l'instant T sur PC. Et c'est vrai que tu arrives rapidement à une facture qui s'élève à plus de 1 300 € en prenant des choses comme une RTX 2080 de Nvidia qui a 11 teraflops par exemple. Sans rentrer dans les détails, on arrive à plus de 1 300 €. Et l'idée, c'est pas de dire les consoles valent 1 300 € parce que c'est pas non, comme ça que ça fonctionne, non. La fabrication d'une machine.
Non, et puis mais, en plus, la comparaison a ses limites parce que c'est des processeurs qui ont été adaptés et customisés par les constructeurs, donc c'est pas exactement ça. Mais...
Le but du truc, c'est surtout de dire que quand on avait fait la même chose, enfin nous on l'avait pas fait, mais Canard PC en revanche l'avait fait en 2013, de concevoir une console à peu près aussi puissante avec des composants PC que la Xbox One et la PlayStation 4 à l'époque, ils étaient arrivés à quelque chose d'équivalent à 700 €. Et en fait on voit vraiment, et c'est pas qu'une question d'augmentation des prix entre temps ou quoi, c'est vraiment qu'à l'époque, le processeur, par exemple, de la PlayStation 4 et de la Xbox One était au rabais, mais vraiment, c'était un processeur de PC portable à une époque où AMD n'était pas capable de concurrencer Intel et tout. Donc, c'était assez problématique. Mais on a fait avec.
On a plutôt très bien fait avec. Des jeux qui ressemblent vraiment à des trucs de génération... de cette génération, bon forcément, parce que c'est... Mais je veux dire, on réussit à faire...
Oui, voilà.
On a réussi sur la durée à faire presque aussi bien sur le PC que sur le PC, ce qui est... Bon, l'un influence l'autre, donc forcément, si les consoles sont à la traîne, le PC peut peut-être pas avancer aussi vite qu'il pourrait si les consoles étaient moins à la traîne, etc., etc. Mais il n'empêche...
Mais c'est aussi ça qui est intéressant avec un changement générationnel, c'est justement il y a ce concept du plus petit commun dénominateur qui est assez important aussi quand on compare les deux consoles entre elles. qui fait que les développeurs peuvent pas, quand ils font pas des exclusivités pour une console, ils peuvent pas tirer pleinement parti des capacités d'un matériel par rapport à un autre. Par exemple, sur la puissance de calcul, on imagine que les jeux vont plutôt viser les 10 teraflops de la PlayStation 5 et proposer quelques éléments en plus, peut-être sur la série X, grâce aux 12 teraflops, par exemple une définition un peu meilleure ou un taux d'image seconde un peu meilleur. Et à l'inverse, pour le SSD, ils vont plutôt s'adapter au SSD un peu plus lent de la Xbox Series X, qui de toute façon est plus... le SSD de la Xbox Series X ressemble plus à ce qu'on connaît aujourd'hui sur PC fixe de façon assez classique. C'est une vitesse moyenne, on va dire, d'un SSD, qui est quand même beaucoup plus rapide que les disques durs qu'on avait avant, hein, mais qui est une vitesse assez moyenne. Les jeux vont plutôt viser ce SSD-là et vont probablement pas, sauf si c'est des exclus PlayStation 5, vont probablement pas tirer parti de ce SSD ultra rapide dont Marc Cerny nous a parlé. Surtout que la gestion du SSD, à mon avis, est plus difficile. Tu peux pas juste, c'est pas une option, une petite option que tu règles, tu vois, dans les options du jeu.
Aller plus vite, hop, cocher, oui, voilà. Et c'est terminé.
C'est pas aussi simple que ça dans la conception du jeu. Donc c'est
ouais,
un peu plus compliqué.
Il y a tout un tas d'histoires de priorité, des accès, de plein de choses qui sont pas en fonction des standards. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais
du coup, toujours est-il que avec cette nouvelle génération de consoles, on augmente le plus petit commun dénominateur. On va enfin pouvoir abandonner la Xbox One. Alors ça prendra peut-être un an et demi avant que les jeux puissent commencer vraiment à être next-gen. Mais on va pouvoir abandonner tout ce hardware-là et les développeurs vont pouvoir se dire on part du principe que on va peut-être pouvoir partir du principe qu'il y a un SSD, par exemple. Alors qu'est-ce que ça voudra dire pour les jeux PC, on verra. Mais on va pouvoir partir du principe qu'une puce graphique, c'est au moins environ 10 teraflops. Ce genre d'éléments qui vont permettre de développer vraiment des nouvelles expériences. Quoi.
Et il y a un truc qui est intéressant, effectivement, dans ce que tu dis, c'est que pour la plupart des jeux, ça restera kiff-kiff. Aujourd'hui, les jeux sont généralement multiplateformes, ils devront composer avec les capacités de toutes les machines disponibles. Pour les jeux, on va dire... du côté de Microsoft, pour les jeux first party de Microsoft, Microsoft vise de toute façon la console, mais également le PC, et d'être disponible autant que possible partout, ce qui explique la manière dont ils ont conçu leur Xbox Series X, qui est en fait, on va dire, une console, un PC ou une console classique avec tous les potentiomètres mis à fond, c'est les potards à fond, et on va aussi loin qu'on peut aller. Ça sera un PC puissant, et comme les jeux sont prévus pour tirer avantage de ces machines et de cette puissance, il suffira de cocher les bonnes options dans la version Xbox Series X. Il ne faut pas oublier non plus de mentionner que, a priori, on verra arriver une Xbox Series S qui sera moins puissante, pour laquelle les jeux vont devoir s'adapter aussi sur Xbox. Donc, c'est un truc à garder à l'esprit aussi. Les jeux devront pouvoir s'adapter à toutes ces puissances différentes, toutes ces configurations différentes. Du côté de la PlayStation, évidemment, ça sera le cas pour les jeux multiplateformes. Ils seront dans le même bateau, à peu de choses près. Là où on pourrait avoir des choses vraiment intéressantes, c'est du côté des jeux qui seront exclusifs à la console. Et d'une manière générale, sur ce point, je vais vous parler à cœur ouvert. Je vais vous ouvrir mon âme. C'est un petit peu difficile de comparer les deux consoles parce que quand on a cette différence de teraflop dont tous les spécialistes disent c'est pas vraiment ça qui est important, même dans les compétences graphiques, en fait, il y a plein de choses qui changent. C'est un chiffre qui est très théorique et il y a plein de choses qui font qu'une console va pouvoir être plus ou moins puissante en fonction de son architecture en général. D' ailleurs, on a entendu certaines estimations selon lesquelles même la PlayStation 5 n'avait pas une architecture vraiment RDNA 2, mais une sorte de 1.5, étant donné l'architecture, ce qu'on sait de son architecture, on n'est pas sûr que ça soit vraiment du RDNA 2. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et en particulier, à l'époque du lancement de la console précédente, là j'arrive à la partie, je vous livre mon âme, la génération précédente, on avait... Là encore, un combat, ce n'était pas tout à fait les teraflops, mais c'était le nombre de P. Combien t'as de P ? Là, elle est en 1080p. Là, la Xbox est obligée de render, comment dire ?
d'afficher
les jeux, voilà, en 800 ou 900p par moment, donc il y a une moins bonne résolution, et il y avait les fans qui s'étripaient sur les forums, et concrètement, c'est vrai que la Xbox originale avait moins de puissance théorique en teraflop que la PlayStation 4, mais c'est pas ça qui a fait... Et c'est pas ça qui a fait que la Xbox a pris du retard par rapport à la PlayStation. Il y avait tout un tas de raisons, mais notamment les exclusivités PlayStation qui ont poussé la console en avant. Et c'était pas le fait qu'on avait du Full HD en 1080p sur PS4, là où il y avait du 900p sur les trois jeux qu'on a comparés sur la Xbox. C'était pas ça le problème. Mais ce que ça me fait craindre, c'est que objectivement, il y avait moins de puissance sur la Xbox One que sur la PS4, et aujourd'hui qu'il y a plus de puissance sur la Xbox Series X que sur la PlayStation 5, de puissance brute, je crois que certains, et même moi-même, je suis tenté de dire ça, certains vont penser « Ah ben voilà, Patrick, si tu dis que là, tout à coup, ça n'a plus d'importance alors qu'avant, ça avait de l'importance », en se souvenant mal de ce que je disais, parce que c'est pas ça qui avait de l'importance, et aujourd'hui, je pense pas que ça soit ça qui ait de l'importance, c'est difficile, mais il faut rester objectif et analyser la situation. Et le truc auquel j'en viens, c'est que quand on entend les développeurs parler, moi, quand j'ai lu les specs, je me suis dit « Ah bah oui, donc du coup, bon, il y a des trucs intéressants. Le SSD est très intéressant sur la PlayStation, mais en gros, bon, clairement, la Xbox Series X a l'air plus puissante et donc elle devrait avoir un petit avantage. » Mais on a entendu beaucoup de développeurs donner leur avis sur les deux consoles. Et bien sûr, ils adorent toutes les consoles, mais si on va chercher dans les détails, les développeurs sont plus intéressés par la PlayStation 5, en particulier grâce à ce SSD qui semble être un facteur différenciant beaucoup plus important qu'on ne le perçoit, nous, en tant qu'utilisateurs. Et ils disent tous également, vous fiez pas au teraflop, parce que ça ne veut pas dire que tel ou tel, ça donne exactement des capacités 20% plus puissantes sur les graphiques. Ou c'est pas ça. Les teraflops, ils disent tous, ça ne veut rien dire. C'est vraiment indicatif et encore par rapport à la puissance graphique. Donc, je me retrouve dans une situation où, si je dis ça, certains vont penser que je suis hypocrite, mais la réalité, bah, elle est là quand même. Et donc, ce que je dirais, c'est... moi, j'ai mes impressions sur le truc. Je pense qu'on est effectivement, ça va être un petit peu kiff-kiff, mais je suis obligé de constater que les spécialistes, les développeurs, ils disent presque unanimement bah, la PlayStation 5, elle est hyper intéressante. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Mais à moins que... Je veux dire, si vous êtes, vous aussi, un spécialiste, je serais très curieux d'entendre votre avis sur la chose. Mais si vous êtes simplement un joueur qui est fan de telle ou telle console et qui va venir me dire « Ouais, machin, teraflop, bidule », ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer là? Parce qu'il y a vraiment ce combat interne en moi qui est « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je dise la Xbox Series X, elle a 12 teraflops, donc objectivement, elle est plus puissante, donc elle devrait donner des jeux plus beaux ?» Mais en même temps, ce que j'entends par ailleurs, c'est tout le contraire par les spécialistes, les développeurs qui travaillent sur les consoles. Donc, bah, je suis obligé de me rendre à l'objectivité des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, je les mets à peu près sur un... Enfin, c'est pas vraiment une compétition en tant que telle, mais il y a sur la PS5 des choses plus intéressantes que j'entends. Donc, je sais pas, Kassim, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors, je vais pas revenir sur le lancement de la Xbox One, mais je pense quand même qu'il y avait je pense que les articles, tu négliges un peu, je pense, la force quand même des articles à répétition qui montraient que la PlayStation 4 était à la fois moins chère et plus puissante. Quand tu avais une fois par semaine un article qui citait les travaux de Digital Foundry qui disait « Bon, bah, le jeu sur PlayStation 4, il est meilleur », je pense quand même que ça aide la console à mieux se vendre de savoir que si tu dois acheter GTA ou je ne sais pas quel jeu multiplateforme, bah, tu vas plutôt l'acheter sur la console qui fait tourner le jeu de façon plus propre et avec de meilleures performances. Quoi. Donc, c'est légitime.
Et moins cher, ouais.
Et moins cher en plus.
Au lancement, elle est très vite arrivée au même prix, la Xbox One. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle était plus chère très longtemps. Mais...
Bah, enfin, disons que c'est vraiment sur le lancement qui a été... je pense que vraiment la présentation était plus catastrophique. Et même les jeux exclusifs, je pense qu'on en... on y met un poids sur les jeux exclusifs qui n'a pas été si important que ça pour la PlayStation 4 à son lancement.
À son lancement, c'est lancement, sûr. Je suis d'accord.
Ouais. Elle avait Killzone et Knack, c'est pas vraiment
non, tout
les
à
jeux
fait,
dont on se souvient le plus. Mais,
t'as parfaitement mais, raison. La force de la PlayStation 4 s'est établie avec les jeux exclusifs sur la durée, complètement. Là, je suis parfaitement d'accord.
Ça, et les annonces, dès le 3, avec l'annonce de FF7 et compagnie.
Mais même ça,
ils ont ancré leur force.
On était en milieu de vie de la console, même pour ça, c'était 2015,
c'est ça.
Je crois. Ouais. D'accord.
C'est ça, et ça ancrait un peu, enfin ça martelait l'avance qu'avait déjà la PlayStation d'après moi. Mais pour revenir à l'actualité de maintenant, sur les performances. Alors les échos qu'on a eu, faut quand même aussi mettre un peu de les remettre dans leur contexte aussi. Il y a eu beaucoup de développeurs qui ont parlé de la PlayStation 5, qui étaient des développeurs travaillant pour ou avec des studios de Sony. Il y a eu des développeurs Naughty Dog, etc. Sans dire qu'ils sont forcément qu'ils vont mentir en disant en défendant leur console plus que d'autres. Je pense que le SSD de la PlayStation 5 est ultra intéressant et ils ont l'air honnêtement enthousiastes à propos de la PlayStation 5. Mais
ouais, mais il n'y a pas eu que. On a entendu des développeurs tiers qui ont dit à peu près la même chose aussi.
Alors, j'en ai pas vu beaucoup justement, mais après là pour moi c'est le moment où je vais attendre. C'est là où la présentation a ses limites. Là, on connaît vraiment les spécifications sur le papier, on n'arrête pas d'en parler. On connaît toujours pas le prix ni la date de lancement exacte des consoles.
Ouais.
Et on n'a pas les jeux tout simplement. Enfin, donc ça, moi, je suis plutôt dans une position où je vais attendre les jeux. Ce que je retiens au final, c'est que les deux sont partis pour faire des excellentes consoles. La PlayStation 5, elle a de bien-être et d'être pas mauvaise ou quoi, la Xbox aussi. Les deux ont leur maintenant des studios et vont avoir des exclusivités. Donc on va enfin peut-être avoir une génération de consoles où à la fois Nintendo, Sony et Microsoft sont entre guillemets en bonne santé et vendent bien leurs consoles et proposent des bons jeux et se tirent la concurrence en termes de caractéristiques. Et c'est là aussi où je suis content que la PlayStation 5 et la Xbox soient aussi ambitieuses, c'est qu'on voit l'effet de la concurrence, on voit que les fabricants essayent de donner leur maximum pour vendre leur console, mais du coup, ça nous bénéficie à nous, en fait, consommateurs et joueurs. Quoi. Je suis vraiment enthousiaste sur tout ça.
Moi qui ne suis pas du tout experte en hardware, comme on en parlait au début de l'émission, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, ce que je vais regarder, c'est les jeux qui sortent. Et il y a quand même le sujet de la rétrocompatibilité qui fait toujours un peu un peu mouche aussi. Mais sinon, en termes de puissance, moi, mon point de vue, c'est que de toute façon, ils vont essayer d'être les meilleurs possibles et qu'au final, on va avoir à peu près des équivalences et que ce qui joue, c'est pas la puissance de la console, c'est ce que les développeurs vont faire de cette puissance et les titres qu'ils vont pouvoir proposer.
L'important sera les jeux. Et pardon, je vais juste dire sur la rétrocompatibilité qu'effectivement, c'est un des points faibles de la présentation sur lequel on n'est pas revenu sur la forme. Ils nous ont fait un peu une Microsoft en annonçant. Enfin, les propos de Marc Cerny étaient un peu flous.
C'était pas clair
scène,
du tout. Ouais.
Et ils ont publié en fait un article officiel sur leur blog PlayStation pour dire que seule une partie des 100 jeux les plus populaires de PlayStation 4 seraient compatible au lancement avec la PlayStation 5 pour ensuite le remettre à jour en disant que à terme la plupart des 4000 jeux de la PlayStation 4 seraient compatibles sans préciser si ce serait au lancement.
Non, c'est pas tout à fait ça. Ils ont dit que là c'était un snapshot d'aujourd'hui, les 100 jeux qu'ils ont essayé, ils tournaient quasiment tous, les 100 les plus
populaire,
ce qui d'ailleurs moi m'avait fait un petit peu bondir parce que les 100 les plus populaires, il va y avoir 10 Call of Duty, 10 FIFA, et enfin voilà, c'est pas les jeux auxquels nous on voudrait jouer quoi. Et en face il y a la Microsoft qui annonce une compatibilité avec 4 générations. Alors c'est pas tous les jeux, surtout c'est sur les générations plus anciennes, mais on a une compatibilité sur quasiment toute l'histoire de la Xbox, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Mais ils ont ensuite mis à jour pour dire la plupart des 4000 jeux de la PlayStation 4 seront compatibles à peu près au lancement. Donc, les 100, c'était même pas envisageable, quoi. C'était ridicule.
Oui, non, on est d'accord. C'est juste. Non, mais là, par contre, la phrase, elle est toujours pas ultra claire. C'est nous pensons qu'une très grande majorité des plus de 4000 jeux qui existent sur PlayStation 4 seront jouables sur PlayStation 5 sans... Enfin, je ne sais pas si le seront jouables... La temporalité du seront jouables est un peu floue.
Ouais, peut-être. Mais, moi, la manière dont je comprends, c'est ils seront jouables tout court. C'est-à-dire que tu les lances et ils se lancent. Mais oui, ça laisse effectivement... C'est un petit peu flou. Ils se laissent peut-être une porte de sortie, mais...
On est d'accord après que ce sera plus que 100 jeux.
Oui, non, mais 100, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Enfin, si c'est ça, autant dire, il n'y a pas de rétrocompatibilité parce que ça n'a aucun sens.
Et voilà, la porte... Enfin, en fait, le point de ce sujet, c'était pas vraiment de dire que la console elle a des problèmes de rétrocompatibilité ou pas. C'est, on pense... Enfin, ce sera pas le cas, mais c'est plutôt de montrer les petits errements de communication qu'a Sony sur ce début de génération là pour le moment. Après, ça, enfin, les gens, j'en connais qui vont réagir très vite sur ce que je suis en train de dire, juste pour dire que en une présentation de la console avec le design, le prix et Spider-Man 2, et ce sera réglé, hein, tout le monde aura oublié. Hein,
oui, complètement.
La discussion de mars dernier.
Je crois qu'il est les comparaisons avec, j'en ai vu fuser les comparaisons avec la Xbox de l'époque. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais il est complètement juste de dire que on commence à se demander si Sony eux-mêmes savent où ils vont avec cette histoire. Alors, ils peuvent complètement corriger le tir avec une présentation, avec des jeux enfin et la manette dans quelques mois, mais on est tout à fait en droit de se demander est-ce qu'ils savent. Parce qu'on imagine bien que chacun est en train d'attendre pour pouvoir annoncer le prix. Ils essayent de savoir à quel prix sera la console. On imagine que peut-être la Series X sera un peu plus chère avec une Series S un peu moins chère et la PlayStation 5 au milieu. C'est possible. Il est même possible peut-être qu'il y ait deux versions de la PlayStation 5 au lancement. Ça me paraît peu probable, mais pourquoi pas. Mais on sent bien qu'ils s'attendent les uns les autres. Mais clairement, là, on se demande ce qu'ils sont en train de faire. Sony, on avait eu pour la génération précédente, et déjà c'était un petit peu tard, en février de l'année de la sortie, une présentation assez complète. Et là, on est en mars et on a l'impression que ça ne va pas arriver avant quoi, avril, mai, peut-être juin. Et bon, enfin, on est complètement en droit de se poser la question de ce qu'ils sont en train de faire. Ceci dit, je vais quand même préciser, on parle des specs parce que c'est ce qu'on a maintenant et qu'on a faim et que c'est marrant d'en parler. Oui. Je vous rejoins complètement sur le fait que les deux sont dans un mouchoir de poche. Autant au niveau de la puissance et au niveau... Enfin, on n'est pas vraiment en train de pinailler, mais presque sur 2 teraflops et un SSD plus rapide. Ça sera peut-être des trucs phénoménaux, mais... Dans l'ensemble, il y a quand même une compatibilité qui est nécessaire à travers les jeux qui sortent sur toutes les consoles. Et puis, comme Nintendo l'a bien montré, la puissance, c'est une chose, mais ce qui est important au final, c'est le game design. Et c'est tout à fait les jeux. Et quand on aura les jeux, c'est sur ça qu'on va juger, comme c'est sur ça qu'on a jugé avec les générations précédentes. C'est juste que là, on a les specs, donc c'est marrant de parler des specs et on en parle une demi-heure, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est absolument indéniable. C'est ça qui a fait... C'est toujours ça qui définit systématiquement le succès d'une console ou d'une autre. Et juste pour conclure, là où Sony a, je pense, même encore aujourd'hui, l'avantage des exclusivités, malgré les rachats qu'a fait Microsoft, parce que Microsoft, c'est plutôt des double A. Enfin, jusqu'à maintenant, ça se trouve, ils vont faire des triple A qui tâchent et qui donnent envie à tout le monde à l'avenir. Mais on a l'impression qu'ils s'orientent plutôt vers des double A pour plaire à tout le monde. Il ne faut pas oublier non plus que Microsoft a un énorme avantage avec le Game Pass, qui est une force commerciale, qui est à mon sens la grosse innovation de cette génération. Et le gros point fort de cette génération, c'est le Game Pass, encore plus que tout le reste. Oui. Et ça, ils l'ont dans la poche et ça influence énormément l'attractivité des consoles à venir.
Bah, c'est un truc que forcément, tu es obligé de prendre en compte, même dans le prix de la console. C'est-à-dire que, admettons que la Xbox Series X soit à 500€ et que la PlayStation 5 soit à 450€, de fait, si par exemple, si tu es déjà abonné ou même si tu t'abonnes au Game Pass, pour 10€ de plus que le prix de la console, tu as accès aux jeux de lancement dans le catalogue comme ça. Alors que la PlayStation 5, il faut rajouter derrière un jeu probablement. Le jeu ne sera pas offert dans la console, tu vois. Il faudra acheter, le Spider-Man 2 ou il faudra rajouter les 50€ en plus du prix de la console pour avoir le jeu avec. Quoi.
Après, il y a quand même le PlayStation Now qui est pas mal dans son genre, qui est peut-être un petit peu moins bien que le Xbox Game Pass parce qu'il n'y a pas tout ce qui est jeu day one, mais je pense qu'ils ont encore une carte à jouer là-dessus.
Oui, bien sûr.
s'ils se réveillent un petit peu là-dessus, Sony.
Ah bah si, bah, par exemple, les jeux, certains jeux, certains, certaines grosses licences seront incluses dans le PlayStation Now au lancement pour 2 mois même. S'ils vont dire, quand on les ressort du PlayStation Now au bout de 2 mois, bon, c'est quand même l'important, c'est de l'avoir au lancement. Là, ça pourrait être un truc. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit la direction qu'ils prennent. Hein. Leurs jeux, ils veulent vous les vendre au prix fort. Donc, je pense que c'est plutôt ça qu'ils continuent à...
Ils n'en prennent pas le chemin, mais c'est une carte qu'ils peuvent jouer à tout moment et qui est plus facile à rattraper que racheter qu'un studio quand Microsoft n'avait aucune exclusivité. Oui,
tout à fait. Tout à fait. Bon, bah écoutez, voilà pour les specs. On aura fait un petit débat. J'aurais tenté, tant bien que mal, d'éveiller les passions meurtrières de mes camarades, mais non, ça n'a pas fonctionné.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, on va se faire une petite pause pour parler de Patreon et vous rappeler que l'émission, bah, comme je l'évoquais en début d'émission, c'est un petit peu comme un magazine qu'on achète dans le kiosque qu'on achetait à l'époque où on faisait encore ces choses-là. Alors oui, de temps en temps, il y a un peu de pub, mais c'est surtout le fait de payer la chose qui est importante et qui permet à l'émission d'exister et d'être ce qu'elle est, d'être indépendante de la manière dont elle l'est. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous aimez bien, vous pouvez vous dire bah, « je vais contribuer et permettre aux gens qui l'écoutent gratuitement de l'écouter gratuitement parce que sans ceux qui payent, eh ben, il n'y a personne qui peut écouter l'émission. » Donc, merci à vous tous de soutenir. Si vous voulez le faire, si vous êtes en train de faire votre jogging, eh ben, au moment où vous rentrez, comme je le dis parfois, vous jetez les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites « Ah, tiens !» je suis sorti à peine 20 minutes pour faire mon jogging pendant le confinement, mais j'avais déjà oublié Patrick. Et ben là, cling, Patrick, je vais aller me mettre sur patreon.com/rdvjeux et contribuer au rendez-vous jeu parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà, c'est ça la question. C'est ça que vous pourriez vous dire si ça vous intéresse. Donc, patreon.com/rdvjeux. Merci à tous ceux qui décide de contribuer et merci à tous ceux qui le font déjà. Alors, on va continuer avec des jeux. Est-ce que on parle d'abord de Half-Life Alyx ou nos impressions mises à jour sur Doom et Animal Crossing? On en a parlé à l'épisode précédent, dans l'épisode bonus. Donc, peut-être Half-Life Alyx, toi, tu y as un petit peu joué, Kassim? C'est un gros morceau, Half-Life Alyx. On ne va pas rappeler tout le contexte non plus, mais sorti d'un nouveau jeu Half-Life, c'est forcément un événement. Un jeu VR en plus qui doit, on va dire, qui est l'un des espoirs de voir la réalité virtuelle avoir son champion. Qu'est-ce que tu en penses, toi, après quelques heures passées dans ce monde ?
Bah alors, je voulais d'abord dire que tout à l'heure, on parlait des jeux sur les plusieurs plateformes et qu'en ce moment, quand même, c'est une période vachement fantastique parce que je pense que toutes les plateformes ont justement une sorte de titre flagship. Tu parlais d'Animal Crossing à 2 secondes. La VR, maintenant, à Half-Life Alyx, justement. Si on considère la réalité virtuelle sur PC comme en quelque sorte sa propre plateforme, puisque faut forcément acheter un casque, Half-Life Alyx, c'est un peu son fleuron, c'est un peu son triple A, son exclusivité triple A, quoi, de la saison. Et elle a vraiment ce nouveau champion avec Half-Life Alyx, je suis totalement d'accord. Moi, je suis fan de la licence depuis la sortie de Half-Life 2. Et j'ai fait Half-Life 1, j'ai fait tous les épisodes d'Half-Life 2, je suis j'ai précommandé dans les 10 minutes qui ont suivi l'annonce d'Half-Life Alyx quand ils l'ont annoncé, genre en octobre ou novembre, je sais plus. Voilà, très grand fan de la licence. Et donc j'étais très impatient de tester ça. Alors faut savoir déjà que je joue avec le Oculus Quest, qui il me semble le même casque que toi tu avais pris aussi.
Ouais.
Qui est le casque totalement mobile de Facebook Oculus. Mais du coup je lui ai branché un câble, on peut acheter un câble de USB en fait qui permet de l'utiliser avec un PC. Donc ça c'est presque le premier défaut de l'expérience, c'est quand même ce câble encore. En fait j'ai vraiment pris un énorme plaisir avec ce jeu, et je prends toujours un énorme plaisir avec ce jeu parce que je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai l'impression que le jeu est encore limité un petit peu par le matériel, c'est-à-dire par le casque qui n'est pas toujours bien réglé en face de tes yeux, par... le câble que tu sens encore un petit peu des fois dans ton dos, par les manettes qui sont pas ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un petit tracking, un petit moment où le tracking disparaissait et où, tu vois, ta main était pas bien reconnue dans le jeu, ton action était pas totalement bien reconnue. Bon, c'était vraiment un ou deux moments sur plusieurs heures de jeu, donc c'est pas non plus des problèmes majeurs, mais voilà, c'était des points que je voulais souligner.
Mais ça maintenant, ça serait pour le cas, jeu, quel que soit le casque, je pense. C'est pas juste le Quest, non, c'est le cas. Enfin, peut-être que certains reconnaissent un petit peu mieux font un peu mieux le tracking des mains.
Alors, j'ai pas testé beaucoup de casques, donc je peux pas te dire si c'est spécifique à ce casque. Ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, peut-être dans un an ou deux, si un jour il y a un casque, tu vois, de réalité virtuelle révolutionnaire qui est totalement sans fil et qui permet de jouer sans fil à des jeux PC, bah, Half-Life Alyx s'exprimerait encore mieux sur ce genre de casque, et qu'entre guillemets, le jeu est future-proof, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, d'accord.
Et que voilà, il est peut-être encore un peu limité par sa plateforme physique. En tout cas, le jeu est ultra impressionnant. Du coup, c'est ma première vraie expérience en réalité virtuelle. Et j'avais fait des expériences de 5 minutes par-ci par-là, tu vois, un petit peu en mode comme la Wii quand on s'amusait avec le tennis pendant 3 minutes, puis après on se rendait compte que quand même c'était pas forcément dingue. Là, c'est la première application qui vraiment me vend la réalité virtuelle. J'ai pu à la fois y jouer en réalité virtuelle et en même temps regarder mon copain y jouer et le voir en 2D avec le retour vidéo en 2D. Et du coup, c'est assez intéressant de comparer vraiment la différence entre les deux. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, et à quel point on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas testé. La 2D ne rend pas du tout compte de ce que c'est que d'être dans le jeu. C'est-à-dire que la taille des modèles, en fait, la taille de l'environnement, en 2D, en fait, on peut être au pied de la citadelle de City 17 et être impressionné de le voir sur un écran en 2D classique. Mais en réalité virtuelle, en fait, ça prend une toute autre ampleur et on est vraiment... à l'échelle, enfin, de nous, de notre corps de 1m80, quoi, de se mettre de, enfin, on lève la tête et on voit vraiment cette citadelle à perte de vue. On voit les fameux striders, ces sortes de tripodes un peu venus de la guerre des mondes qui avaient marqué à l'époque dans Half-Life 2. Là, on retrouve ça. On retrouve vraiment tout cet environnement de Cité 17, les membres du cartel, les méchants, les ennemis. Qui vraiment prennent forme. D'ailleurs, les crabes de tête des zombies, par exemple, ont gagné en taille, en fait, par rapport à Half-Life 1 et Half-Life 2, parce que il faut qu'ils soient assez réalistes pour imaginer qu'ils prennent vraiment la tête de quelqu'un. Donc, ils sont un peu plus gros qu'avant, en fait. C'est des éléments, c'est de l'ordre du détail, mais ça montre déjà, juste visuellement, l'importance qu'a mis Valve pour développer ce titre. Et là, j'ai même pas encore parlé du gameplay. Et c'est le gameplay vraiment qui. Je te redonne la parole, je vais juste terminer sur ça. Le game design, avec ce jeu, Valve montre à nouveau que c'est des maîtres en termes de game design. C'est un truc qu'on leur a beaucoup donné pour Half-Life 2 et Half-Life 1 avant lui. C'était vraiment ils savent développer un peu comme on l'indique souvent pour les jeux Nintendo. Ils savent créer un game design et exploiter des idées. Et un peu comme dans un jeu Nintendo, ça fourmille d'idées à tout instant. Des séances de hacking où tu vas devoir faire tourner un globe devant toi avec tes deux mains et faire bouger des éléments dans l'espace. Tu le fais physiquement jusqu'à t'amuser quand même. Et mon exemple est assez stupide. T'amuser à ouvrir des tiroirs d'un bureau ou d'un placard pour fouiller, pour trouver des munitions. Mais c'est dingue à quel point... c'est jouissif de se dire que chaque tiroir est ouvrable, chaque, euh, chaque élément d'un placard, voilà, tu peux bouger un carton, le retourner et voir qu'en fait dans le carton il y avait des éléments pratiques pour toi. Et ça devient vraiment cette boucle de gameplay où tu te mets à fouiller chaque pièce. Et assez incroyable. Et là, j'ai même pas parlé des séances de combat où tu t'amuses à te mettre à quatre pattes derrière une barricade, physiquement à quatre pattes, et à pouvoir tirer à l'aveugle ou en levant juste légèrement la tête pour essayer de viser et de tirer ou jeter des grenades littéralement en agitant la main et pas en essayant de créer un arc de cercle un peu chelou comme on a l'habitude dans les jeux.
Je te pose la question sur ce point spécifique. Je pense qu'on a bien compris l'attrait de la présence dans le monde, mais les désavantages, est-ce qu'ils sont également présents de la même manière? C'est-à-dire que tu dis on s'accroupit physiquement dans notre salon, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a la place, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est fatigant de vraiment bouger, est-ce que le déplacement, parce que les modes de déplacement dans les jeux en réalité virtuelle, c'est toujours plus ou moins problématique. Alors je sais qu'il y en a, il y a toutes les versions dans Half-Life Alyx, il y a la téléportation, il y a le déplacement lent, il y a tout. Mais est-ce que tout ça, ça fonctionne aussi, ou est-ce qu'on se dit, bon, bah ouais, c'est, on n'y est pas encore, mais c'est sympa d'être dans ce monde, donc je vais passer outre? Ou est-ce qu'ils ont réussi vraiment à donner quelque chose de convaincant pour toute cette partie du jeu-là aussi?
Alors, sans te promettre que c'est parfait, je vais quand même dire que c'est très bien réussi et qu'effectivement, ils proposent toutes les options. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, pour le coup, moi et mon copain, on n'a pas choisi la même option. Moi, j'ai choisi l'option de téléportation, c'est-à-dire qu'en fait, tu vises en gros un endroit devant toi à quelques mètres. Tu vois des pieds virtuels se matérialiser dans l'espace et tu dis, en fait, c'est là où je veux être. Et tu te téléportes de façon progressive vers l'endroit. Tu fais une sorte de bond en avant. Et moi, c'est le choix, enfin, c'est vraiment le truc, c'est la vie que j'ai choisi de mener dans Half-Life Alyx. Et ça me permet de me déplacer et je trouve ça assez intuitif. Et surtout, ça ne me donne pas la nausée, ça ne me fatigue pas. Et ça me permet de ne pas me déplacer parce qu'effectivement, mon salon n'est pas non plus gigantesque. Et moi, ma façon de jouer fait que, en gros, je ne me déplace pas physiquement dans l'espace. Je me déplace juste en hauteur et légèrement, disons, on va dire quelques centimètres tout autour de moi quand j'agite les bras, etc. Mais je me déplace pas, je marche pas, quoi. Je bouge pas.
D'accord. Et ça fonctionne dans même l'espace. Quand on ne marche pas dans l'espace, ça fonctionne vraiment pour toi.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
Et moi, par contre, et mon copain, du coup, a choisi le déplacement progressif où, en gros, tu t'appuies comme dans un jeu classique. En fait, tu te déplaces avec le joystick et ça se déplace. Alors contrairement à un FPS, ça se déplace pas dans... Non, c'est... Voilà. Comme un FPS, ça ne se déplace pas là où tu regardes, ça se déplace dans le sens où est ton corps. Dans un FPS, tu peux imaginer, quand tu joues avec ZQSD, tu peux te déplacer sur la gauche, par exemple, sans que ce soit là où tu regardes. Là, il fait un peu la même chose. Et en gros, moi, quand je l'ai testé, ça me donne immédiatement la nausée. Par contre, c'est impossible. Ça me donne vraiment le sentiment un peu comme un vertige.
La cinétose, c'est terrible.
Direct.
Mais
instantanément. Lui, par contre, ça le gêne pas. Il préfère ça à la téléportation. C'est d'accord. Le contraire, c'est la téléportation qui trouve gênant. Okay. Donc, le fait de proposer les options et d'avoir pensé le fait d'avoir pensé les jeux, d'avoir pensé le jeu pour ces quatre déplacements, fait que c'est vraiment pour moi un état de l'art. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire un état de l'art de ce qu'on était capable de faire en réalité virtuelle. De ce que j'ai pu comprendre, il y a plein de choses comme par exemple la gestion de l'inventaire au niveau des mains. Ça, c'est pas un élément que j'ai beaucoup abordé, mais il n'y a aucune interface dans le jeu. Tout se fait de façon réaliste, c'est-à-dire que tu regardes en fait, les points de vie et compagnie, ça affiche malgré tout, mais ça affiche en fait, au niveau de tes gants. Et il n'y a pas une sorte d'écran 2D par-dessus ton affichage qui t'indiquerait un peu les points de vie, tes munitions, etc. C'est à toi de gérer les munitions. Tu regardes ton pistolet pour savoir s'il te reste des munitions dedans. Et pour le recharger, tu dois faire un mouvement, en gros, pour enlever le chargeur, aller prendre un nouveau chargeur dans ton dos et faire des mouvements sur ton flingue. Bon, alors je suis pas américain, donc je suis pas encore expert en rechargement de pistolet, je commence à avoir un peu le mouvement. Mais voilà, du coup, tu sens qu'ils ont pris des idées un peu de toutes les expériences VR qu'on avait vues au cours des années précédentes, et qu'ils ont mis un petit peu ça, ils ont peaufiné ça, un petit peu comme Nintendo ou Blizzard, vraiment, ils ont peaufiné ça, enlevé ce qu'il fallait pas, mettre dans un jeu VR, et pour proposer vraiment la meilleure expérience possible, je pense, aujourd'hui en VR, quoi. Et alors, je suis pas spécialiste, comme j'ai dit, c'est un peu ma première grosse expérience, mais c'est ce qu'ont l'air de dire tous les tests que j'ai vus sur le web.
J'ai vu à peu près que des tests dithyrambiques, à part peut-être chez Giant Bomb, ils ont l'air de pas être convaincus, mais je crois que c'est les seuls. Mais du coup, bon, dernière question, tu parles du plaisir de l'immersion, en quelque sorte, c'est ce sur quoi tu as beaucoup insisté jusqu'à maintenant, j'ai l'impression. Quid du plaisir de jeu, vraiment, du plaisir de gameplay? Est-ce que c'est fun? Moi, évidemment, je vais penser à Half-Life, c'est un jeu de tir, donc est-ce que c'est fun de tirer sur des trucs? Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments de gameplay qui sont fun. Moi, tu me décris la boule qu'on a vue dans les trailers, qu'il faut déplacer, tourner, c'est une sorte de puzzle où il faut brancher des éléments relier certaines parties de la boule entre elles. Moi, ça, je vois ça, j'ai l'impression que c'est chiant au possible. Peut-être, ça se trouve, c'est super fun quand tu le fais en VR, mais est-ce que le jeu est fun vraiment? Est-ce que le tir est bon? Quid de tout ça?
Ouais, il y a trois éléments là-dedans. Alors déjà, d'une part, le plaisir du jeu, il vient aussi de son scénario et de son lore, qui évidemment font beaucoup. On est plongé immédiatement dans l'ambiance et dans le scénario, j'ajouterais quand même l'humour, parce qu'on retrouve, c'est quelque chose d'assez nouveau dans Half-Life finalement. On retrouve beaucoup d'éléments d'humour qui viennent de tout droit de Portal et de Portal 2, clairement.
Ah oui.
Avec le personnage, en fait, il y a Alix qui fait des commentaires en permanence et de façon un peu cynique. Et tu as un scientifique en fait qui te parle, qui est en communication quasi permanente avec toi. Et pareil, qui fait des blagues. En gros, la première fois qu'il te file un flingue, il te le balance. C'est à toi de le rattraper avec tes mains. Il te le balance en disant voilà un flingue qui est déchargé. Et en fait, toi, tu n'arrives pas à le rattraper, il finit sur une voiture, y a une balle qui part, et parce qu'il restait une balle dans le flingue, et il te dit, bon, bah maintenant, il est déchargé, en tout cas. et voilà, des petites vannes comme ça qui viennent plutôt de Portal. Bon, c'est pas exactement la réponse que je pense que tu voulais, mais ça fait partie des choses qui sont importantes dans un jeu vidéo. C'est pas qu'une démonstration de game design, il y a quand même un scénario, il y a quand même d'autres choses, tu vois. C'est un vrai jeu, entre guillemets, c'est ça que je voulais indiquer.
Non, je comprends, tu as tout à fait raison, ouais.
Et sur l'élément, le gameplay en lui-même, le tir marche. Et je vais reprendre l'exemple du puzzle dont tu parlais il y a deux secondes. Oui, en vidéo, en fait, en 2D, ça a l'air chiant au possible parce qu'on dirait un puzzle comme il y en a dans tous les jeux depuis 20 ans de hacking, un peu le mini-jeu de hacking à la con, c'est le cas. Mais en même temps, la première fois où tu essayes de faire le truc comme si c'était en 2D, donc tu commences à prendre ton élément et à le traverser sur le globe pour essayer de déverrouiller la serrure. Et en fait, tu te rends compte qu'avec ton autre main, tu peux faire bouger le globe dans l'espace. Et c'est comme ça en fait que tu vas résoudre le puzzle. Et en fait, il y a ce déclic un peu de game design, un peu comme à l'époque de Half-Life 2, quand il y avait le moteur physique qui faisait son arrivée et qu'on avait le Gravity Gun pour la première fois et qu'on comprenait que on allait pouvoir faire des... je me souviens d'une énigme d'Half-Life 2 où, en gros, tu mettais des briques d'un côté d'une planche de bois pour, faire contrepoids et pouvoir sauter sur un espace en hauteur. Dit comme ça, cette énigme, elle est quand même un peu ridicule et elle est pas... Genre, tu vas t'amuser à mettre des briques sur une planche de bois, quoi, c'est pas très drôle. Mais c'était une démonstration de ce que le moteur physique était capable de faire. Et vu que c'était la première fois qu'on avait un moteur physique comme ça, c'était fun et c'était c'était nouveau et en réalité virtuelle on retrouve un peu cet effet là avec les énigmes. C'est un peu le nouveau moteur physique, je trouve, cette nouvelle couche
à ce point là
d'immersion et de gestion de l'environnement. J'ai pas parlé du son 3D évidemment, qui est aussi très important. On entend tout autour de nous, c'est tout ce qui se passe à tout moment, mais ouais, non, c'est un jeu qui est très fun à jouer. Cela dit, pour juste répondre à un dernier élément que tu posais, effectivement, c'est un jeu auquel je n'arrive pas à jouer pendant 6 heures d'affilée comme je pouvais jouer à Half-Life 2 pendant 6 heures d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, malgré tout, et là c'est difficile de savoir si ça vient du jeu ou si ça vient du casque, malgré tout au bout d'un moment tu as une certaine fatigue et tu as juste envie de faire une pause, ce qui permet aussi de profiter du jeu plus longtemps, mais
la durée de vie est allongée.
C'est ça. Ce point négatif est en fait un point positif, non. Mais je pense aussi que ça vient du casque qui a tendance à serrer au bout d'un moment de mon côté. Et de réglages qui... Et c'est un truc qui me faisait peur, dont on n'a pas parlé pour la PlayStation 5, mais j'ai toujours peur des plateformes, des éléments, que ce soit le son 3D ou que ce soit la réalité virtuelle, les éléments qui te demandent de régler toi-même un réglage. Tu sais, comme quand on te demande le contraste en lançant un jeu. Est-ce que vous voyez à peu près cette image ou est-ce que vous la voyez beaucoup? Et tu sais jamais vraiment quel réglage il faut mettre pour jouer. Là, je trouve que c'est un peu la même chose avec les casques de VR. Tu sais jamais si ton casque il est vraiment bien ajusté, si cette zone qui est un peu encore floue dans ton angle de vision, c'est normal qu'elle soit floue, c'est parce que le casque, tu ne l'as pas parfaitement réglé, ou est-ce que ce serait meilleur avec un autre casque? C'est des questions que tu te poses en permanence, et sur ça, je pense que l'expérience peut encore être améliorée. Mais le jeu en lui-même est vraiment réussi.
Bon, bah écoute, ça donne envie. System seller?
Ça, c'est compliqué à dire. J'ai l'impression que les gens braquaient sur la question de la VR et espèrent encore que le jeu sera modé pour être joué en 2D. Ce qui semble, enfin, je pense qu'il y aura vraiment des gens qui vont essayer de le faire, mais le jeu perdrait beaucoup de son intérêt, d'après moi, à être joué en 2D.
Écoute, je t'ai posé une question à laquelle je veux une réponse oui ou non.
System Seller,
faut-il acheter un casque de réalité virtuelle pour jouer à ce jeu?
System Seller, j'ai envie de te dire oui, puisque j'ai acheté un Oculus Quest pour jouer à ce jeu.
Très bien, la réponse est là. D'accord.
Valve a réussi son coup déjà sur ça, quoi.
Très bien. Merci beaucoup pour ce rapport fort détaillé. Ça t'a donné envie, Maïté? Ça y est, tu vas considérer l'achat?
C'est clairement un jeu qui me fait très envie. Après, en l'occurrence, un Oculus Quest, ça coûte pas non plus le prix d'une Switch. Ouais. Donc, ce que j'aurais bien aimé, c'est éventuellement prendre un casque. Alors, mon PC, j'ai pas la config qu'il faut, mais avec Shadow, s'ils n'avaient pas décalé la disponibilité de leur service. Mais dès que j'ai la fibre, je sais que je suis intéressée par un système Shadow, et je m'étais dit qu'à ce moment-là, j'aurais pu me prendre un casque de VR, puisque j'aurais eu, en toute logique, la config nécessaire.
J'espère que Valve sortira Half-Life Alyx sur le PlayStation VR de la PlayStation 5, on pourrait en reparler, mais c'est pas forcément complètement sorti de l'impossible, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir arriver, quoi.
Enfin, en tout cas, je ne me vois pas y jouer autrement qu'en VR. En effet, je pense que ça perdrait de son intérêt.
Même les gens de Valve s'attendent à ce que ça soit modé pour être joué sans VR, mais bon,
évidemment.
On imagine bien que... moi, pareil, mon PC n'est pas suffisant et j'ai un Shadow, et c'est possible de bidouiller, mais ça serait plus simple quand ils auront leur offre VR chez Shadow, enfin leur système de VR chez Shadow. Moi, c'est possible de bidouiller, mais en plus, les serveurs ne sont pas à côté de chez moi, donc je l'ai fait déjà, mais... Bon, peut-être qu'il faudrait que je teste, mais c'est vrai que changer le PC et tout ça, c'est pas que le casque de réalité virtuelle. Il faut aussi changer le PC, j'avoue que le mien est quand même bien... Il a pris un coup de vieux cette dernière année, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera au programme. Déjà, cette année, il faut attendre de voir le prix que coûteront les Xbox Series X et PlayStation 5, parce que...
Bon, quand je vois à quel point Half-Life 2 est resté bon à travers les années, je pense que Half-Life Alyx restera bon aussi l'année, et que c'est pas grave si on n'y joue pas maintenant.
Non, mais grave, non, mais si on a envie, tu vois, c'est ça qui...
mais si on a envie et qu'on peut, foncer, quoi.
Ouais, bon, voilà, c'est la réponse. Animal Crossing, quelques heures de plus, et Kassim, tu y as joué aussi.
Si on peut et on a envie, foncez. Animal Crossing.
Maïté, c'est toujours le bonheur sur ton île?
Oui, j'ai pas grand chose de plus à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit l'autre jour. Là, je suis rentrée dans un rythme un petit peu de croisière où ça y est, j'ai fait mes grosses tâches de fond, et donc aujourd'hui je me connecte au jeu surtout pour faire mes petites tâches récurrentes quotidiennes, aller creuser 2-3 trous à droite à gauche, continuer d'amasser les clochettes et puis meubler mon intérieur, donc voilà, mais je suis toujours aussi enchantée. Et il y a une chose que j'avais pas dite d'ailleurs pendant le podcast du début de semaine, que j'ai regretté de pas avoir dit, c'est à quel point le jeu est chouette visuellement.
Oui.
C'est vrai que vu qu'il y a un côté un peu chibi kawaii au niveau des graphismes, ça pourrait donner l'impression que c'est un jeu un peu moche, mais je trouve que le gap graphique entre l'ancien et le nouveau déjà est appréciable, et en plus de ça, il y a des effets de texture, de lumière, de profondeur de champ, etc., qui sont vraiment très très chouettes, et d'autant plus sympa quand tu as ce petit côté de chill où tu te poses sur un endroit et juste admires le soleil couchant avec sur la mer. Donc voilà, visuellement, en plus de ça, c'est vraiment une réussite.
D'accord. Ouais, Kassim, t'es convaincu aussi?
J'adore aussi. Je trouve que c'est le jeu du feel good absolu. Enfin, qui, Il n'y a aucune, y a jamais d'animosité, il n'y a jamais de problème, il n'y a aucune barre de besoin dans ce jeu, donc je trouve ça fantastique. Et il y a toujours tout qui va bien, quoi, et j'adore. Même quand tu es endetté auprès de...
Bah oui, c'est ça, tu as quand même mais... tout l'aspect Tom Nook. Mais j'ai entendu qu'il était moins... moins méchant que dans les versions précédentes, quand même.
Ouais, c'est parce qu'il est sur une île insulaire, donc il est un peu plus détendu, tu vois.
Par contre, mais... il se fait taffer toujours autant, hein, voire plus.
Mais par contte, alors moi, c'est juste, j'ai eu un souci quand même avec ce jeu, c'est simplement la coop qui m'a un peu déçu, l'expérience multijoueur. Donc j'ai mon copain aussi qui y joue, et lui, il est vraiment, et c'est un point qui a été relevé aussi par des sites comme Kotaku. C'est vraiment le joueur numéro 2 au sens années 90 du terme, quoi. C'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être un PNJ. Il ne peut pas avancer certains trucs de l'île. Il n'y a que moi, en tant que joueur numéro 1 et créateur de l'île, qui peut les faire avancer.
Excuse-moi, quand tu dis multijoueur, tu veux dire deux joueurs sur la même console, sur le même compte?
Alors, il y a deux choses. Ouais, il y a déjà le fait qu'il y ait deux joueurs sur la même île. Ça, c'est effectivement déjà... donc, ce n'est pas au même moment, mais... il y a déjà des problèmes autour de ça, le fait qu'ils ne puissent pas faire avancer les quêtes.
On ne peut pas chacun avoir notre île ?
Non, c'est une île par Switch.
Ouais, c'est terrible ça.
Et du coup, il ne peut pas faire avancer en gros la quête principale, entre guillemets. Et c'est à moi qui dois lui dire, il faut que tu me ramènes 30 bois, et c'est à moi de donner à Tom Nook les 30 bois, par exemple, pour faire avancer le truc, quoi. Donc ça, c'est déjà une première limite, et même en le vrai mode coop, où tu es les deux en même temps à l'écran, il a pas accès à son... enfin, le joueur secondaire n'a pas accès à son inventaire et a un accès assez limité aux fonctions du jeu. Et en plus, par exemple, on ne peut pas aller visiter une île à deux, les îles aléatoires, on ne peut pas aller les visiter à deux, il faut forcément être tout seul. Et on ne peut pas accueillir des visiteurs. Il y a tout ce système où tu peux aller visiter les îles d'autres joueurs en ligne. Et dans le cas où on accueille des joueurs sur notre île, si j'invite des amis sur notre île, il peut pas être là, quoi. Il a pas le droit d'être là. C'est quand même assez ridicule, quoi. Enfin, tu vois.
Ça avait été pas mal critiqué, ça.
Ouais. Donc c'est vraiment le bémol que je trouve au jeu, qui est un peu décevant de la part de Nintendo, qui est plutôt doué sur le multijoueur justement local, coop en général, je trouve.
Ouais, le jeu en réseau, c'est pas vraiment leur truc, moi, je dirais.
Non, le jeu en réseau, non, mais le jeu vraiment. C'est quand même les papas de la console avec quatre entrées de manette.
Ah oui, de cette manière, tu veux dire. D'accord, ok, oui. Okay.
Donc ils ont quand même le multijoueur un peu dans leur ADN, même si le multijoueur en ligne n'était pas forcément leur fort. Donc c'est un peu le bémol que j'ai trouvé sur le jeu, mais sinon il est vraiment incroyable, sinon il est génial.
Bah écoute, je pense que l'approbation est quasi totale, malgré ces problèmes de multijoueur, effectivement, qu'il faut garder à l'esprit. Doom, du coup, je vais juste dire que je comprends beaucoup mieux maintenant ce que disait JK dans notre épisode bonus. Je vous rappelle que l'épisode précédent était un bonus où on a parlé assez longtemps de Doom et Animal Crossing. Mais le truc qui était vraiment important dans ce qu'il disait, c'est que c'est un jeu qui est super, mais un petit peu fatigant. C'est du ultra du début à la fin. Et c'est vrai que c'est intellectuellement éprouvant, en fait, de jouer à Doom. Ça peut paraître bête de dire ça, mais il y a tellement d'éléments au jeu. Au bout de 2-3 missions, on commence à avoir la tronçonneuse pour faire tel truc, le lance-flamme pour faire tel autre truc, les coups de poing magiques pour faire encore un truc. Et il faut savoir... à chaque fois, quoi utiliser, à quel moment du combat. Les ennemis, en plus, il y en a différents qui sont sensibles à différentes armes. On a sur chaque arme deux modificateurs différents qui ajoutent une fonctionnalité à l'arme entre lesquels on peut switcher. Il y a des bonus qu'on peut avoir, genre un arbre de specs ou des specs qu'on peut avoir en plus pour changer notre... nos capacités spéciales, on va dire, ou pour ajouter des caractéristiques spéciales. On a en plus de ça des bonus à débloquer sur un autre écran. Mais enfin, même au-delà des bonus qu'on va débloquer, le gameplay dans le moment, c'est on court partout, on peut jamais s'arrêter. Et alors, vas-y que je fais la tronçonneuse. Non, en fait, j'avais besoin du lance-flamme. Ok, maintenant, il faut que je cours pour récupérer un peu de vie. Là, il y a un ennemi. Enfin, c'est... Oh là là, c'est génial, hein, j'adore. Mais je me fais généralement une mission ou une demi-mission, et après j'ai besoin d'aller jouer à un truc tranquille. Ouais, j'ai besoin d'aller jouer à Overwatch, tu vois, où c'est tranquillou, parce que c'est... Mais c'est un super, super jeu. C'est un peu l'antithèse de Animal Crossing, j'ai l'impression. Mais...
Mais non, mais tu sais très bien que ces deux jeux sont intimement liés sur Internet.
Tout à fait, oui. Ah, mais ça, je le sais bien. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, ça reste quand même, c'est un jeu. Je sais que les avis sont parfois un petit peu partagés sur les choix qu'ils ont faits par rapport à Doom 2016. Moi, je dirais que c'est dans l'ensemble quand même assez positif. Et sans l'avoir fait, je pense que si on revient à Doom 2016 après avoir joué à Doom 2020, je pense qu'on sera quand même, limite on s'emmerdera. Alors que Doom 2016, c'était quand même un truc assez speed. Je pense qu'il y a tellement plus de choses dans le 2020. Et dans l'ensemble, c'est des choses réussies. Il y a peut-être une petite composante de « on ajoute des choses pour ajouter des choses ». Mais je pense que pour l'immense majorité, ça fonctionne. Et sans ça, ça devient tout de suite... comment dire ? J'ai l'impression... En fait, voilà l'impression que ça donne. C'est Mario Kart. Si on joue en... On passe de 50 à 100 CC, on se dit « Ah, mais 100, c'est super rapide !» Et puis, on continue et on passe à 150. Et on se dit « Ah, mais non, voilà, là, c'est vraiment super rapide !» Et puis, quand on revient à 100... En fait, on se rend compte que, mais 100, c'était pas si rapide que ça, parce que maintenant, on a l'habitude de 150. Eh ben, c'est un peu ça. Le Doom 2020, c'est le 150, voire même le 200 cc de Mario Kart 8, par rapport au 100 ou 150 cc de Doom 2016. Donc voilà, c'est ma review officielle. On va continuer et conclure avec quelques petites news. D'abord, la carte de contrôle va être mise à jour pour être un peu plus lisible. C'était peut-être la critique qu'on pouvait faire à contrôle. C'était le problème de la carte qui, moi, m'a... Bon, pour d'autres raisons aussi, mais j'ai arrêté de jouer en partie à cause de ça parce que je ne savais pas où je devais aller. C'est Patrick, le vrai gamer, vous savez. Et donc, peut-être que j'y retournerai quand la carte sera mise à jour. Ça devrait arriver bientôt. On a eu un Nintendo Direct...
Il faut des couloirs, c'est ça ?
Pardon ?
Il te faut des couloirs pour bien te repérer dans un jeu.
Mais ouais, non, mais il faut un couloir. C'est encore plus simple. Pourquoi plusieurs ? T'en fais un, tu continues à avancer. Voilà. Un Nintendo Direct spécial indé. Moi, j'en ai pas retenu grand chose. Je sais pas s'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce Nintendo Direct.
Rien du tout. Pour une fois, rien du tout, je dirais. Ouais.
Bon, c'est rare.
Un RPG qui avait l'air sympa, vaguement, celui qui ressemblait un peu à ce que fait un peu du Ghibli, quoi, dans une inspiration, mais c'est sorti de ça et dont je n'ai pas retenu le nom.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, tellement sympa que t'en as pas retenu le nom.
Mais sinon, c'était ouais.
Ouais, c'était bon, voilà.
Vivement le vrai Nintendo Direct qui arrivera bien un jour, on le sait. Hein,
non, mais là, ils savent qu'avec Animal Crossing, ils sont tranquilles pour 6 mois, donc du coup, ils se foutent plus maintenant.
Il s'est tellement bien vendu. Mais le jeu en question, c'était Baldo, et c'est un studio italien qui le développe.
Tout à fait.
Naps.
Merci.
Du côté de chez Blizzard, on a un nouveau personnage sur le PTR dans Overwatch. S'appelle Echo, qui est assez sympa. Je le mentionne parce qu'on n'a pas eu de nouveauté depuis tellement longtemps sur Overwatch que, et on n'en aura pas pendant tellement longtemps que c'est notable. Pardon, t'aimes bien son nom ?
Non, il porte bien son nom.
Oui.
Parce que son pouvoir spécial, c'est de copier les autres, donc il s'appelle Echo.
Ouais. Il est assez sympa, franchement. Hearthstone, on a aussi, pour la première fois depuis le lancement, je ne parle pas souvent des mises à jour de Hearthstone, mais il y a une nouvelle classe dans le jeu, pour la première fois en 7 ans depuis l'annonce. Donc, c'est une nouvelle classe, ça, c'est un changement notable. Il y a aussi des chiffres pour Call of Duty Warzone, qui après 3 jours, était déjà à 15 millions de joueurs. Alors évidemment, il est porté par la qualité du jeu, mais aussi par le confinement.
Le confinement. Qui touche un petit mot du monde.
mais pour donner une comparaison, sur Fortnite, on était au bout de 2 semaines, on avait 10 millions de joueurs. Et sur Apex Legends, au bout de 3 jours, on avait 10 millions de joueurs aussi. Là, avec Warzone, on a 15 millions en 3 jours. Alors, je pense que les gens se sont habitués à ce type de lancement, etc., etc. Et il y a le confinement. Mais il est indéniable que le jeu connaît un immense succès. Il faut noter aussi qu'il y a un mode solo qui a été ajouté, là, il y a quelques jours. Donc, si vous ne voulez pas aller en escouade, vous pouvez vous faire tuer en solo plutôt qu'en groupe. c'est le plaisir est multiplié par 150 puisqu'on est 150 joueurs solo sur la carte.
Mais du coup, oui, là, c'est...
C'est pas un solo, c'est un multijoueur où t'es tout seul, quoi.
Oui, c'est pas en escouade de trois. C'est que tout le monde, c'est un contre... Enfin, tout le monde est contre tout le monde. C'est pas en équipe.
D'accord.
C'est ça que je veux dire.
Un genre de Battle Royale, quoi, en fait.
Bah, c'est un petit peu un Battle Royale, effectivement, Warzone. Ouais. Donc, sauf qu'avant, c'était Battle Royale par groupe de trois en escouade, comme dans tous les Battle Royale. Là, c'est un mode solo pour les Battle Royale.
Ouais, c'est un genre de free for all géant, quoi.
Exactement, c'est ça, ouais.
Un petit peu comme quand tu dois aller chercher ton paquet de PQ au supermarché.
C'est ça, on peut quand même y aller en escouade hein, si vous êtes en couple avec un enfant auquel vous pouvez confier la mitrailleuse sur le caddie, c'est possible aussi. Mais...
ça va donner des idées.
Gabe Newell a annoncé que Valve allait repenser Artifact de fond en comble, vu le désastre que ça a été le lancement de ce jeu de cartes que la plupart d'entre vous a sans doute déjà oublié. C'est pas volé. Bon, c'est bien qu'ils l'oublient pas complètement, mais ils vont le revoir. Donc, on aura sans doute une sorte d'Artifact relancé ou Artifact 2 qui arrivera à un moment.
C'est marrant comme ils s'accrochent à ce jeu-là. Moi, je pensais qu'ils auraient laissé tomber et pas du tout.
Je sais pas, j'imagine qu'ils imaginent qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, tu sais, le truc aussi avec Valve, c'est qu'ils ont tellement d'argent et ils en ont tellement rien à foutre. C'est une société privée, c'est ça qu'il faut savoir. Valve, c'est pas une société publique qui doit faire plaisir aux actionnaires. Donc, ils font absolument ce qu'ils veulent et j'imagine qu'il y a les employés, parce que Gabe Newell, il laisse généralement les employés faire ce qu'ils veulent. Les employés ont dû se dire, ah bah merde, on l'a raté, mais il y a un truc à faire, on adore ce genre de jeu, on veut retenter. Et Newell a dit... Ah ok, on a Half-Life Alyx qui va se vendre un peu, ça va faire de l'argent en complément de Steam. Donc bon, prenez l'argent de Half-Life Alyx et bossez sur Artifact, ça ira. Voilà.
Ça fait rêver.
Que c'est comme ça que ça se passe.
C'est vrai que tu posais la question du système seller, le Valve Index, en parlant de faire de l'argent, le Valve Index est toujours en rupture de stock depuis novembre dernier. Alors ça veut pas dire qu'ils en aient fait 40 millions d'exemplaires de stock, hein, mais il est en repas de stock, quoi.
Ouais, tout à fait. T'as un petit peu coupé, mais je pense effectivement que... Moi, je me méfie de cette donnée parce que le Valve Index, c'est un casque de réalité virtuelle hyper cher et je pense effectivement qu'ils n'en font pas des centaines de milliers par mois, tu vois. Donc, je n'ai aucune idée de combien ils en vendent. Bon.
Bien sûr, mais je suis totalement d'accord.
Tiens, je vais voir si en changeant de serveur sur Discord, ça va pouvoir corriger un petit peu les problèmes. Si jamais l'ordinateur explose, c'est à cause de ça. Hop, on change de serveur. Est-ce que vous êtes toujours là ?
Oui, et c'est mieux.
Et c'est mieux, merveilleux. Ben voilà, faut pas passer par la Russie. Je vais écraser un petit peu vos espoirs. Si vous pensiez, parce qu'on en parlait il y a deux semaines, que Silent Hill allait être repris par Sony, comme la rumeur le laissait entendre, et ben Konami a démenti la rumeur. Ils ont dit non, on a entendu les rumeurs, mais elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes. En parlant de Silent Hill... Du coup, je rebondis sur la chose pour mentionner qu'ils n'ont pas dit que Castlevania n'était pas vrai. Enfin, la rumeur sur Castlevania n'était pas vraie. En tout cas, c'est ce que... Non ?
Il y a deux bémols quand même à dire. Alors, je ne veux pas faire le conspirationniste believer des rumeurs hein, non plus. Mais alors déjà, d'une part, c'est Konami Amérique qui a nié ça... Enfin, je ne sais pas à quel point ils sont au courant de tout. C'est un premier point.
De mon expérience, quand tu mets ce genre de... parce que c'est un message qui a été envoyé à Rely on Horror, le site américain qui avait lancé la rumeur, par Konami US, effectivement. Mais quand tu fais ce genre de choses, a priori, tu dois poser la question à tes collègues japonais. Tu ne l'envoies pas sans poser la question.
J'espère. Ça m'est déjà arrivé de moi d'expérience aussi d'avoir des trucs d'avoir des RP qui me disent non. Et le lendemain, tu as la branche corp américaine ou japonaise de la boîte qui fait oui.
Ouais. Ça
paraît peu probable. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la fin de la citation, c'est ça ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais c'est juste pas la façon dont ça a été indiqué dans les articles. Donc, je, Après, voilà, est-ce que c'est juste du RP flou pour dire ne vous inquiétez pas, enfin Silent Hill, on ne tue pas la licence non plus.
Je pense que
vous inquiétez
ça.
Pas, il y a des nouvelles machines Pachinko qui arrivent. Ou est-ce que c'est pour quand même dire que c'est juste. En gros, ça, pour moi, je le vis un peu comme surtout un démenti de Sony n'a pas racheté nos IP, les investisseurs, rassurez-vous, investisseurs, machin, les IP restent chez nous. Ça ne veut pas dire que la licence est morte, ça ne veut pas dire que Sony ne développe pas de jeu sous licence, ou ouais, ça ne veut pas dire que Konami ne s'est pas redit on va faire un jeu ou quoi. Ça veut juste dire que, pour moi, ça veut dire surtout que Sony n'a pas racheté la licence, ça veut dire que ce ne sera pas exactement la façon effectivement dont la rumeur le présentait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, ça me paraît être un petit peu une lecture... comment dire,
fan de Silent Hill.
Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est possible, hein, on ne sait jamais. Quand on dit Sony a racheté la licence, il serait possible qu'il paye l'exclusivité de la licence pour 5 ans, tu vois, ce genre de truc. Ça me paraît beaucoup de circonvolution dans la lecture du truc.
J'y crois pas.
Ça pourrait juste être qu'ils disent, bah, évidemment qu'on n'abandonne pas la licence, mais comme tout le monde, personne ne va jamais te dire bah, on abandonne la licence.
Mais c'est ça, on est d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord.
Je pense. Mais par contre, il ne mentionne pas Castlevania, donc
non, mais...
sur ça, alors, Patrick... sur ça peut-être.
Il ne mentionne aucun de leurs autres jeux non plus.
Non, mais les rumeurs faisaient état de Silent Hill et de Castlevania. Enfin, c'était deux rumeurs différentes.
Il ne mentionne pas Suikoden, et ça, c'est le plus important.
Ah, c'est ça qui te... Oui, je comprends. À chaque fois qu'on parle de Konami, on a une petite voix quelque part qui réussit à nous joindre. C'est Cassine qui fait « Et Suikoden, alors ?» C'est systématique.
Je l'aurai un jour.
Je l'aurai un jour. Google a... c'est peut-être un peu trop vieux ça, mais Google a également dévoilé un programme qui va ajouter des tonnes de jeux pour Stadia. C'est le Stadia Makers qui s'adresse essentiellement aux développeurs indépendants. En gros, les jeux qui tournent sous Unity seront faciles à porter sur Stadia. Et il y a une phrase qui m'a tué dans cette annonce, c'est la phrase où ils disent... En réalité, le problème, c'était qu'il y avait plein de studios qui ont voulu faire partie du lancement de Stadia, mais on n'avait pas le temps de travailler avec eux à ce moment-là. En gros, maintenant, on a le temps. Mais d'où vous sortez, les gars ? Votre lancement famélique au niveau du catalogue, vous venez nous dire maintenant « Non, mais en fait, il y avait plein de gens qui voulaient bosser avec nous, mais on a dit non, quoi. » Mais quel... Ah, mais ça me tue, vraiment. Et en plus, ils le disent dans une déclaration publique, genre, ouais, maintenant, vous pouvez, mais c'est pas maintenant qu'il va... Oui, c'est mieux là... que rien de le faire maintenant, parce qu'il y aura le vrai lancement avec la version gratuite dans quelques temps. On le sait tous et on l'a assez répété, alors que maintenant, c'est qu'une bêta. Mais enfin... Mais...
Là, tout à l'heure, tu disais que tu sais, la PlayStation 5, il y en a, il la compare avec le lancement de la Xbox One et que c'est trop fort, il ne faut pas comparer les problèmes de communication et tout. Le vrai comparo avec la Xbox, le lancement de la Xbox One, c'est le lancement de Google Stadia. Quoi. J'ai l'impression.
Je me demande.
Tous les problèmes, toutes les erreurs qu'ils peuvent faire, ils le font. Quoi.
Je me demande même si ce n'est pas pire. Je veux dire, il y a trois trucs qu'on retiendra des années 2010 dans les problèmes dans l'histoire du jeu vidéo qui sont vraiment dans le top 3. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, mais il y en a trois. Il y a la Xbox One, il y a le lancement de Stadia et bien sûr Anthem qui est niveau olympique dans la compétition des ratages. Mais Stadia, oui, on est clairement à un truc comparable. Quoi. Oui, je suis d'accord. Bon. On va conclure avec trois news qui ont à voir avec le virus quand même. Il fallait bien qu'on en parle, mais c'est des trucs un petit peu marrants. D'abord, Sony ralentit le PlayStation Network pour pas prendre trop de bandes passantes, comme on l'a vu chez Netflix.
Était-ce vraiment possible ?
Alors voilà, moi la blague dont j'étais très fier, c'est donc en fait, il passe de la DSL au RTC, c'est ça qu'il ralentit. Patrick, très drôle, merci. Plague Inc. Va ajouter un jeu où le but n'est pas de répandre la pandémie, mais de l'arrêter et de sauver l'humanité. C'est pas bête comme truc à ajouter. Et enfin, le truc qui m'a fait plaisir, c'est Fallout 76, qui est également pas trop mal placé dans la catégorie des lancements ratés, Fallout 76, dans lequel les joueurs se sont mis à emmagasiner le papier toilette autant que possible, et c'est devenu, bon ça a duré peut-être que quelques jours, mais c'est devenu genre la denrée la plus rare du jeu, la denrée virtuelle la plus rare. Ils se mettaient tous à amasser autant de papier toilette que possible. Ça m'a fait sourire. Donc,
les captures d'écran où ils se mettent en scène avec le papier toilette dans des décors hyper cosy, j'ai trouvé ça vraiment très drôle.
C'était pas mal foutu, oui, j'avoue. Et ils montrent leur stock de papier toilette avec des centaines de... Et genre les papiers toilettes exposés dans des vitrines. Enfin bon, bref, c'est marrant. Voilà pour notre émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, bien sûr, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver tous les deux. J'imagine que c'est Twitter. Esca, c'est Twitter, c'est ça ?
Tout à fait, toujours Twitter, Escarina _. Ne tweetez pas cette pauvre Escarina sans _, qui est une personne que je ne connais pas, mais qui reçoit des tweets pour moi de temps en temps et qui me les redirige très gentiment. Donc, pensez à ajouter le _, le tiré du 8, comme on aime à l'appeler, à la fin de mon pseudo.
Ça marche. Et vous, même pas besoin de taper dans les notes de l'émission. Vous avez le lien vers son compte Twitter, Cassim. Ah,
c'est parfait.
Moi, de mon côté, on peut me retrouver sur twitter.com, donc sur @notcassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M, et puis surtout sur frandroid.com, dans lequel on publie pas mal d'articles sur le gaming, justement, depuis la refonte du site de décembre dernier. Donc, on est presque un vrai site de jeux vidéo. On ne fait pas de critique des jeux en eux-mêmes, mais on parle de la Xbox, on parle de la PlayStation 5, on parle aussi de Google Stadia. bon, voilà, il faut en parler. on parle de tout ce qu'il y a autour du jeu vidéo. C'est vraiment un chapitre important du nouveau site.
Magnifique. Moi, je dis, ça sent mauvais pour Android, tout ça, entre Fuchsia, les trucs qui poussent sur Android, Frandroid qui se met à parler d'autres choses. Bon.
Ouais, on est vraiment, on veut devenir un média, effectivement, indépendant d'Android et parler, de rester la référence quand même pour les gens, mais dans pas mal de domaines, les smartphones, mais et aussi d'autres univers, quoi.
Très bien. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Plein de choses sympas sur Instagram. Il y a des impressions sur certains des matériels de podcasting, par exemple. Vous pouvez voir la manière dont les choses se passent en Finlande dans mes stories. Enfin, plein de trucs sympas, vraiment. Vous pouvez aller sur Instagram et chercher NotePatrick. Vous pouvez aussi aller sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Le lien est également dans les notes de l'émission pour soutenir l'émission. Si vous l'appréciez, ça vous fait passer un bon moment, et ben vous pouvez faire cling Patrick en rentrant chez vous ou en étant chez vous. Maintenant l'émission se termine, vous pouvez prendre le temps. patreon.com/rdvjeux. Je vous remercie tous très chaleureusement et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.